fait. Là, tu marques.
Alors, Jean-Paul est excusé.
Et tu cherches.
Ma fison, en fait,
voilà.
Ça.
Voilà. Ensuite. Ah, tu es déjà abonné. Tu es déjà abonné.
J'ai déjà abonné. Ah bon,
c'est très bien. Colle la cavode. Bon, mais sinon, je vais essayer de vous envoyer. Je ne sais plus jusqu'où on était arrivé. Après, je vous enverrai. Et donc, on revient dans notre étude du livre de Bereshit. Nous sommes au chapitre 22. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, on avait terminé le chapitre 21 par la fameuse histoire où Avimelech vient voir Avraham, voulant faire la paix avec lui, et lui, il fait la paix. Et on avait dit qu'en punition de cela arrive la Akeda Titzrak. C'est-à-dire, l'histoire de la Akeda, c'est parce que tu n'as pas voulu. Ben oui, nous dit le Rashbam. Bah, d'abord, quand on te demande de sacrifier ton fils, c'est pas sympathique.
Moi, je pensais que c'était juste pour voir s'il avait foi en lui ou en Dieu. Ou...
Alors, il y a de ça aussi. Mais nous dit le Rashbam, il nous donne les mots de Dieu. Il dit, je t'ai donné un fils pour qu'il hérite de la terre d'Israël, que je t'ai promise. Tu viens de renoncer à la terre d'Israël, du moins à une partie, en faisant un traité de paix avec Avimelech. Donc, tu ne veux pas de la terre, rends-moi le fils.
C'est dur.
Dur. Maintenant, c'est dur. Comme il n'a fait que donner une partie, alors il n'y a eu que plus de peur que de mal par rapport à Yitzhak. Mais il faut bien comprendre que la terre d'Israël a été donnée à Abraham et à ses descendants. Que, en quoi il se permet de donner une partie. C'est ça ? Donc ici, va y achar adevarim elle. C'est achar, ça veut dire juste après. Juste après les événements des accords d'Oslo numéro 1 avec Abraham et Avimelech, eh bien, Dieu lui dit... Va'Elohim nissa et Avraham, va'yomer elav Avraham, va'yomer inen. Donc Dieu a testé nissa, nissayon, ou alors nissa, la sept, comme la simoto al nes. Nes, c'est un, pas un miracle, c'est un bâton en hauteur. C'est-à-dire qu'il va l'élever par justement cette épreuve. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de nissayon pour Yitzhak?
Parce qu'il est objet, il n'est pas sujet.
Bah, d'accord, mais c'est quand même lui qui doit se faire tuer.
Mais il ne sait pas.
Bah, dans deux secondes, non, d'accord. Mais quand Abraham va lui dire, on voit qu'à aucun moment, Yitzhak ne rechigne à aller. Et puis, il n'est pas bête. Il a 37 ans.
37 ans.
Donc, ce n'est pas un petit bébé. Il, à un moment donné, il dit ironiquement, il dit, on va le lire, on va le lire. Il dit, papa, il y a ici tout ce qu'il faut pour faire le corban. Où est l'agneau? Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas un Nissayon pour Yitzhak? Pour une raison très simple. On l'avait dit, tout notre fil conducteur de la parashat Vayera, c'est d'apprendre à Avraham Midat Hadin. Yitzhak, il est Midat Hadin. Et donc pour lui, c'est tout à fait normal de rendre la vie qu'il a reçue en cadeau. J'ai reçu la vie, c'est normal que je la rende. D'ailleurs, c'est ce que pensaient tous les êtres humains, toutes les civilisations humaines, pratiquaient le sacrifice humain. Alors quoi, ils étaient tous débiles? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Nous, ça nous paraît complètement absurde. Mais deux secondes. Quand on analyse l'anthropologie de toutes les civilisations, ils avaient tous des dieux divers et variés, ce que tu veux. Mais partout, il y a la culture du sacrifice humain.
Oui, on donnait ce qu'il y avait de plus cher.
Ben voilà.
C'est Daesh.
Ah non, Daesh, c'est pas un sacrifice. Ah non, pas du tout. Mais Daesh, ce sont des assassins. Ce ne sont pas des sacrifices humains. Ils sont pas en train de sacrifier leurs enfants. Ils décapitent pas leurs enfants devant les caméras du monde pour montrer leur foi en Dieu. Ils décapitent ceux qui sont pas d'accord avec eux. Ça n'a rien à voir.
Et
eux-mêmes, parce qu'ils savent.
Oui, mais comment ça, eux-mêmes? Ils se tuent en
général. Ils savent qu'ils vont mourir. Comment ça, monsieur? Mais alors, mais les amis, nous ne sommes plus. Mais c'est fou. Nous ne sommes plus. Mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Nous ne sommes plus dans l'attentat kamikaze qu'on a pu avoir dans la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est complètement différent. Le mec qui vient avec son couteau à la Wagbar et qui veut tuer tout le monde, il sait qu'il est possible qu'il se fasse tuer et il est prêt à mourir. Mais il n'a pas envie de mourir. Il a envie de continuer à servir et à tuer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il sait que si jamais il se fait tuer, alors il est prêt à cela. Mais ça n'a rien à voir avec le mec qui porte une ceinture d'explosifs et qui va se faire tuer. C'est deux choses complètement différentes. Il faut bien le comprendre. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a... Alors là, je sors un petit peu de notre cours, mais bon, c'est tellement actuel qu'on est obligé d'en parler. Il y a une question qu'on doit se poser, j'ai entendu le Rav Cherki en parler cette semaine. C'est une vraie question profonde qu'on doit se poser par rapport aux attentats qu'il y a eu la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, et qu'on espère qu'il n'y en aura plus. La grande question qu'on doit se poser, c'est que ces gens qui vont faire ces attentats, alors c'est du monsieur tout le monde, a priori.
Bien sûr.
C'est monsieur tout le monde. Comme à Gaza, ce qu'il y avait eu en 2015, l'intifada des couteaux, c'était pareil, c'était monsieur tout le monde. Alors la question qu'on se pose, c'est, mais alors qui les envoie? Qui commandite l'attentat? Vous comprenez que c'est une grande question qu'on doit se poser si on veut savoir comment lutter contre la chose. Il faut savoir qui est derrière tout ça. À l'époque... Alors, une éducation, tu as raison, je veux juste bien mettre le doigt sur la chose. Dans les années 80, quand il y a eu la première intifada en 87, et quand il y a eu la deuxième intifada, les gens étaient envoyés par le Fatah, le Hamas,
les organisations.
Hein ? Alors, justement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Propagande générale, ambiance.
Alors, je pense que c'est ce que. Ben voilà, je pense que vous pêchez par occidentalisme. Je pense que ce que vous dites, c'est une erreur. Et que vous pêchez par occidentalisme en disant ils sont endoctrinés. C'est, quelque part, ce n'est pas tellement de leur faute. Les pauvres, ils ont été lavés de le cerveau depuis le début. Il y a un commanditaire. Le commanditaire, c'est le Coran. Il se revendique du Coran, point. Il ne se revendique pas de « on a été éduqué comme ça à l'école ». Ce ne sont pas des attentats nationalistes. Que tu me dises que dans les manuels scolaires à Gaza, on présente Israël comme étant le démon, c'est vrai. Mais lorsqu'il y va pour tuer des gens dans la rue, il ne vient pas au nom du peuple palestinien. Il vient au nom d'Allah.
Oui, au nom du Coran.
Il vient au nom du Coran. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vrai, dans le Coran, il y a des sourates qui... Oui, Nahon, bien sûr qu'il y a des sourates qui disent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut le faire. Et il vient au nom de ces sourates-là qui disent qu'il faut le faire. Il ne faut pas se voiler la face. Ce qui veut dire que... Alors, évidemment, en Israël, personne ne veut le dire. Et en Europe, personne ne veut le dire. Dans l'Occident, personne ne veut le dire. Parce que quand tu dis que c'est l'islam qui l'a envoyé faire ça, et ça ne veut pas dire que tous les musulmans vont le faire, bien sûr que non. Mais lorsque tu dis que c'est l'islam qui l'a envoyé, c'est-à-dire que c'est sa lecture à lui du Coran qui l'a envoyé faire ça, ça veut dire que tu admets que. Alors, il vient tuer qui ?
Les mécréants.
Hein ?
Les mécréants.
Les mécréants, mais en l'occurrence, ici chez nous, c'est qui ?
Non, c'est le juif.
C'est les juifs.
Les juifs.
Les juifs, pas l'État d'Israël.
Non,
les juifs. Oh, donc ça veut dire.
C'est un des braves, d'ailleurs.
Mais exactement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix que de parler d'une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre nationaliste.
Non, c'est une guerre de religion,
tout à fait. Ah oui, sauf qu'il faut le dire. Parce que les gens, ils n'arrêtent pas de dire que c'est une guerre territoriale. Ce n'est pas une guerre territoriale, c'est une guerre beaucoup plus profonde. C'est-à-dire, et ça, c'est fondamental. Et ça, ça a commencé au cours qu'on avait fait la dernière fois, par rapport au renvoi d'Ishmaël, par rapport au débat. Qui succède à Abraham ? Est-ce que c'est Yitzhak ou est-ce que c'est Ishmaël ? Ça, vous comprenez que ce qu'on est en train de vivre, ça prend ses racines dans notre étude du livre de Bereshit.
C'est une guerre de religion avec ces mecs-là. Mais quand c'est le Hamas qui envoie il y a
3-4
ans, etc.
Mais c'est pareil. Oui, c'est exactement pareil, puisque le Hamas est une organisation religieuse. C'est ça qu'on n'a pas voulu comprendre.
C'est vrai, parce qu'ils savent très bien que territorialement, ils n'arrivent pas.
Le Fatah, si tu veux, le Fatah, c'est des Chilonim.
Aujourd'hui, c'est complètement...
Ouais, mais il faut que tu comprennes. Le Fatah, c'est des Chilonim. Yasser Arafat, c'était un Chiloni.
Oui.
Il était détesté par les musulmans, je veux dire les pratiquants. Mais bon, c'était lui qui prenait la couverture. Mais le Fatah ne représente absolument pas le combat de l'islam. D'accord ? Absolument pas. Le Hamas, oui. Alors, ils ont pris une posture politique depuis 2006. D'accord ? Mais il n'en reste pas moins un groupe religieux.
Alors, pareil avec le Hezbollah.
Ah, le Hezbollah est exactement pareil, dans la mesure où ils sont chiites. C'est encore,
c'est encore
différent. Mais, je ne sais pas si c'est pire, mais c'est différent. Donc, ça veut dire que et là, on n'a pas vraiment le choix, mais on est obligé bien d'analyser les choses. Tu la tourneras dans tous les sens que tu veux. Peut-être que pour l'instant, ça se passe pas trop mal ou pas trop. Il y en a qui vont dire très mal. Mais Mahmoud Abbas, Mansour Abbas, non Mahmoud, pas Mahmoud aussi, mais Mansour Abbas particulièrement, c'est un religieux. C'est-à-dire, il fait partie des frères musulmans. Donc, non mais disparaître ou pas, c'est-à-dire que.
Non,
non mais je suis pas prophète politique, mais disons que faut bien comprendre que sa place au gouvernement, il n'est pas là pour, en aucun cas, pour régler les problèmes sociaux des Arabes. Il est là pour faire rentrer la taqiya à l'intérieur de l'État d'Israël. Je veux dire, il faut un tout petit peu d'analyse, pas politique, mais spirituelle et religieuse de qu'est-ce que c'est l'islam.
Tu lui diras, Bennett, ça. Tu dois lui dire ça.
Non, voilà.
Il attendait.
Je vous invite, si vous avez, si vous avez pas peur d'écouter des choses en hébreu pendant longtemps, je vous invite à retrouver les conférences fantastiques du professeur Mordechai Kedar sur YouTube. C'est un islamologue extraordinaire, bon, c'est en hébreu, mais enfin voilà, les choses sont assez claires, quoi. En tout cas, tout ça pour dire que Yitzhak, lui, il comprend qu'il doit rendre ce qu'on lui a donné. Donc pour lui, ce n'est pas un Nisayon. Mais pour Abraham, qui jusqu'à maintenant connaissait Dieu comme étant Midata Chesed, ah non, si tu m'as donné, pourquoi tu reprends? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est ça? Et là, on a dit, toute la paracha, c'est pour faire apprendre à Abraham qu'il faut également le dire. Donc, Vayomer, Vayachar advarim haele, Vayelohim nisa et Avraham, Vayomer elav Avraham, Vayomer ineni. Ineni, ça veut dire quoi? Je suis là.
Je suis là, je suis prêt.
À quelle question je réponds quand je dis je suis là?
Il a appelé Abraham.
Non, mais c'est quoi la question? Quand tu dis, quand tu dis Abraham, c'est pas une question. Tu vois, alors à la limite, tu dis oui. Mais si tu dis je suis là, quelle était la question?
Es-tu prêt?
Non.
Viens,
où es-tu?
Où es-tu?
Où es-tu?
Quand, si je te dis es-tu prêt, tu ne me réponds pas je suis là.
Oui,
tu me dis oui, je suis prêt. Où es-tu? Je suis là.
La question, c'est marqué Vayomer et là Abraham.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il l'a appelé.
Il l'a appelé, mais qu'est-ce qu'il lui a dit?
Ineni. C'est pas ce qu'il lui
a dit. On sait, puisqu'il a répondu Ineni.
C'est pas clair.
Ah, bien sûr que c'est pas clair. Mais en fait, c'est très très clair. Il n'a pas besoin de lui dire, parce qu'Abraham a très bien compris. La question a été posée depuis déjà très longtemps. Ça fait très exactement 2000 ans que la question a été posée. La question a été posée et n'a toujours pas eu de réponse depuis 2000 ans. Lorsque Dieu a demandé à Adam Rishon, Ayeka, où es-tu? Et personne n'a répondu. Abraham comprend que la question qui lui est posée, c'est est-ce que tu es prêt à être le successeur de Adam?
Le successeur de qui?
Adam Arishon.
Adam.
Et il répond, je suis là. Zéo. Ouais, je suis prêt. Et alors là, on est parti dans ce dialogue lunaire. Vayomer, karna et bincha. Prends ton fils. Et là, Abraham répond,
okay.
J'en ai deux. Et yechidecha, ton unique. Ah, celui-là, il est unique pour sa mère. Celui-là, il est unique pour sa mère, lui répond Abraham. Asherafta, celui que tu aimes, je les aime tous les deux. Tu n'as toujours pas compris? Et Yitzhak. Et donc, rétrospectivement, ça veut dire que Yitzhak, c'est celui que tu dois aimer, que tu dois avoir comme unique héritier et qui est ton fils. Ve'lech lecha el eretz amoria ve'aleu sham le'ola elecha de'arim asher omar elecha. Qu'est-ce qu'il lui demande?
D'aller au Mont
Moria,
aller où?
Monte-le. Aller où? Va aller où les cadouregels?
Les
Ola. Mazé Ola.
C'est
un sacrifice. Et voilà. Non, parce que je te vois venir. Tu vas me dire, non, il n'a pas dit de le sacrifier. C'est lui qui a mal compris. Il a très bien compris. Va aller où Cham les Ola, Ola, Zekorban, Ola. Il n'y avait pas de débat. La preuve, c'est ce qu'il a compris. Donc, il lui dit de le sacrifier. Nous, on admet qu'Abraham, il a montré sa grandeur en faisant ce que Dieu lui demande. Le Rav Moshe Bochko, il dit qu'Abraham a échoué dans son test. Parce qu'il aurait dû dire à Dieu, non.
Comme Sdom.
Hein?
Comme chez Sdom, il est Ouïd Vakar.
Ouïd Vakar, exactement.
Là.
Mais là-bas, il est Ouïd Vakar pour des mauvaises raisons. C'était pour sauver les Réchaïm avec les Tzadikim. Mm-hmm. Et là, il aurait dû dire non. C'est-à-dire, et Dieu voulait qu'il dise non.
Et qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait dit non?
Il aurait montré que En Korban Adam Beyadut.
Ah.
Non, demande-moi autre chose. C'est-à-dire, et bon, finalement, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. אוקיי? ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. Donc, à combien ils partent? Ils partent à 4. Enfin, à 5 si on compte l'âne. Il a pris Yitzhak et ses deux Néharim. Pas des Néharim. Néharim, on pense d'habitude des jeunes. Aval, Nahar, Batanar, ce n'est pas forcément un jeune physiquement. C'est quelqu'un qui est Er. Nahar, ça vient du mot Er, Itorerut.
C'est-à-dire
éveillé. Bouddha.
Ah oui?
Oui.
Ah, d'accord.
Non, Bébé, Bouddha, ça veut dire éveillé.
L'éveillé.
L'éveillé. L'éveillé. L'éveillé. Donc, Nahar, ça veut dire l'éveillé. Celui qui est réveillé. Itorerut. Itoreri. Kumi. Ifjibigde, itifarter, ami. Donc, Nahar, c'est celui qui est conscient de la réalité. En général, c'est à l'adolescence que tu commences à t'éveiller au monde. C'est pour ça qu'on appelle cette période-là Anahar. C'est-à-dire, mais là, ils ne sont pas du tout jeunes. Puisque de qui on parle ? Nous dit le Midrash, on va parler d'un côté de Ishmael, qui a été recherché, et de l'autre, Eliezer, son serviteur. Ils ont tous dépassé l'adolescence depuis très longtemps.
Non, mais Eliezer, il est avec Sarah.
Sur quoi il est avec Sarah ?
Qui est-ce qui est avec Sarah, à la fin, dans Chaye Sarah ?
Non, Eliezer, il est envoyé dans Chaye Sarah pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Mais là, on n'y est pas encore.
Non.
Okay.
Non, parce qu'à un moment... Au moment, elle est avec quelqu'un qui dit « Regarde, qu'est-ce qui se passe au mémorial ?»
Ah oui, mais ce n'est pas Eliezer, c'est Og. Non, c'est Og Melech Habasha, qui deviendra Melech Habasha. Bekitzur, donc il part avec Ishmael, Eliezer, Yitzhak et Lan. Alors, est-ce qu'on lui a demandé de prendre Yitzhak, Yitzhak, oui, mais est-ce qu'on lui a demandé de prendre Eliezer et Ishmael ?
Non.
Bien sûr que non. Alors, pourquoi il les prend ?
Peut-être pour qu'il soit témoin.
Peut-être pour qu'il soit témoin, ou alors parce qu'Avram, il n'est toujours pas convaincu.
Ah oui.
Qui est mon successeur? Est-ce que c'est Yitzhak, mon fils? Est-ce que c'est Ishmael, le fils de la culture mondiale que j'ai eu avec Agar? Ou est-ce que c'est mon Talmid, mon élève? Imaginez, Yitzhak, c'est celui qui va devenir le détenteur d'une spiritualité monothéiste qui parle à une famille. C'est quoi ça? Une spiritualité monothéiste qui n'a pas vocation expansionniste et qui parle à une famille. C'est le judaïsme. Après Ishmael, il revendique une spiritualité monothéiste, mais qui s'adresse au cosmopolitisme. Vous connaissez une spiritualité monothéiste qui veut convertir le monde entier ? L'islam. Oui, la chrétienté aussi, mais elle a une différence. La différence entre Ishmael et Eliezer. Je ne rentre pas dans le débat du monothéisme de la chrétienté. Il y a une différence entre Ishmael et Eliezer. L'islam, certes, demande à tout le monde de se convertir, mais veut également, et c'est tout le paradoxe de l'islam, qui est une religion cosmopolite, mais d'un autre côté, qui veut développer un instinct national. Puisque tout celui qui se convertit à l'islam rejoint ce qu'on va appeler la Oumma. C'est-à-dire le peuple. Et donc, il y a une dimension de filiation nationale, même si, au final, c'est cosmopolite. De la même façon que Ishmael, il est le fils de l'Égypte, mais il est aussi le fils d'Abraham, quelque part. Et puis, face à eux, il y a Eliezer, qui est le patron d'une spiritualité monothéiste également, puisqu'il est l'élève d'Abraham, mais c'est une spiritualité qui se transmet non plus de père en fils, mais de maître à élève. Comme pour dire qu'on a remplacé les 12 tribus par 12 apôtres.
Apôtres.
Alors, évidemment que Eliezer, il n'est pas devenu chrétien, mais on peut voir ici dans les racines de ce qui va devenir le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on prend les trois. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Vaikar etchnena ravito va yitzrak beno vaivaka atse olla vaikom vaielech la makom asher amar lo Elohim. Et il est parti avec de quoi faire du feu là où Dieu lui a dit d'aller. Vayom ha-shelishi vaisa Avram et einav vayar et ha-makom merachok. Trois jours de marche, il est arrivé. Alors où est-ce qu'il est arrivé ? Non, pas encore. Il est arrivé de là où on peut voir l'endroit de loin. Alors, où est-ce ? Non, alors, il vient de Hebron. Donc, où est-ce qu'il arrive ? Alors, soit il arrive Bederech Ha'avot, dans le Gush Etzion, mais ça paraît un petit peu trop... Enfin, c'est trop près de Hebron. Il semble... Pourquoi ne pas dire qu'il est arrivé à Armon HaNetziv ?
Oui, pourquoi ?
C'est Derech Hebron. C'est le chemin pour arriver à Jérusalem. Ouais. Et il voit l'endroit de l'un, là où on amène tous les touristes pour voir Jérusalem, sur la taillelette de Harmon Hanassil. Ouais, et là-bas, il voit l'endroit de loin. Et à ce moment-là, il faut choisir. Qui vient ? Vayar et amakom erachuk. Vayomer Avraham el ne'arav shevu lachem po im hachamor. Vani v'anar nelcha atko v'nishtachave v'nashuva alechem. Nous dit le Midrash, lorsqu'il arrive là-bas, il voit la Shechina attachée au Haramoria. Et il dit à tous ceux qui l'accompagnent, qu'est-ce que vous voyez ? Ishmaël et Eliezer lui disent, bah, on voit une montagne. Et Yitzhak lui répond, je vois une nuée attachée à la montagne. Et donc à ce moment-là, il comprend que le seul qui voit comme lui, c'est Yitzhak. Et donc il dit à Ishmaël et Eliezer, « Shevu lachem po imachamor. » Et faisait po. Restez ici avec le chamor.
Matérialité.
Alors, je veux bien qu'on dise chamor, c'est chomer, c'est matérialité. Le problème, c'est qu'à l'époque du Tanakh, le mot chamor ne vient pas, le mot chomer n'existe pas. Donc, c'est Dieu, le mot chomer existe, mais pas dans le sens matérialité. Vachemar yalem la chomer, comme on voit dans la tour de Babel, c'est le matériau. C'est un matériau de construction. C'est pas la matérialité en tant que telle. Ça, c'est une définition qui viendra plus tard. Donc, le chamor dans le Tanakh, c'est ce qui permet d'avancer dans ce monde. Shvu lachem po. Et faisait po.
Ah,
on reste là.
Oui.
C'est à combien de le périmètre ? Ils ont le droit de rester combien ? À 10 mètres de diamètre ? Ils ont le droit d'aller à la Macolette ? Où est-ce qu'ils ont le droit d'aller ? Po.
Po, c'est
po. Po, c'est pas Po en gematria, c'est 85. Ou alors, on peut dire également 86 moins 1. Bon, pourquoi je dis 86 moins 1 ? Parce que c'est en référence au verset de Tehilim. Vatechasreu me'at me'elohim. Il y a une dimension que l'homme peut atteindre dans sa recherche du divin qui va presque arriver à Elohim. Elohim be gematria 86. Donc tu vas arriver presque à Elohim, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans la nature, Zepo. C'est là où Ishmael et Eliezer arrivent, c'est là où Emmanuel Kant arrive. C'est-à-dire qu'il va être capable de parler du Naomen velo du phénomène, ou du phénomène velo du Naomen. Hein, vous rappelez de vos études de philosophie ? Est-ce que
phénoménologie.
Les bidouks, la phénoménologie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, je peux parler du phénomène et pas du naomen. C'est-à-dire, je peux parler du dévoilement, mais pas de l'essence. En d'autres termes, Dieu, je peux le percevoir dans son dévoilement, c'est-à-dire dans la nature, mais pas dans son essence, yudkevavke. Donc, il leur dit, vous êtes arrivés à la phénoménologie de Emmanuel Kant. Donc, vatechasreu me'at me'elohim shvu lachem po imachamo. Vani v'anar qui avons réussi à voir la nuée, on s'est élevé bien au-delà. Nelcha at ko. Ko c'est
25.
Ou alors 26 moins 1. C'est-à-dire que nous, on se rapproche de Yudke Vavke. Du transcendant. Non plus de l'émanant, mais du transcendant. Pas seulement dans le dévoilement de Dieu à l'intérieur des forces du monde, mais au-delà. Nelcha at ko. Venishtachave venashuva elechem. Alors, Shav, les commentateurs, ils te disent Niba velo yadam aniba. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait parce qu'il est parti pour le sacrifier. Et pourtant, il dit et on reviendra. Nous deux. Donc, on dit il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Mais deux secondes.
Massif.
Oh bah, comme tu vois à la fin du film, qu'il a quand même sacrément l'intention. Hein. Je veux dire, moi, j'ai vu la fin. S'il n'y a pas le malach, on n'est plus là pour en parler. Hein.
Mais c'est vrai, pourquoi il dit nous
reviendrons ? Alors je te dis, Rashi te dit, Niba velo yadam aniba. Peut-être que c'est ce qu'il espérait en son fort intérieur, Yicholot. Le fait est qu'il y va. Mais il va faire quoi ? Venishtachave. Qu'est-ce que c'est Venishtachave ? Alors on sait, l'Ishtachavot, c'est se prosterner. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que se prosterner dans la Torah, c'est pas à la mode de nos amis musulmans. Ce qu'on fait, nous, à Kippour, c'est que ce que font les musulmans. À savoir, on remonte notre touches vers le haut. Bah, c'est comme ça.
Ça dépend, il y en a qui se prosternent complètement par terre.
Alors justement,
ça va,
personne ne le fait aujourd'hui.
Non.
Parce que pour le faire, il faut le faire, c'est comme ça qu'on doit faire, mais au Beth Amikdash.
Ah d'accord. C'est pas de mal la veille.
Bon. Oh, tout de suite. Homme de peu de foi. Tu sais, moi j'adore. Je fais un aparté. Tu m'obliges à faire un aparté. J'étais, c'était quand? C'était lundi. Lundi, j'étais avec mon groupe du bac bleu-blanc. Des terminales de l'école Otsar HaTorah de Sarcelles. Les filles. Et je les ai emmenées au Machon Amikdash. Et on a parlé du Beth Amikdash, je leur ai montré tous les ustensiles, machin. Hein?
On peut dormir,
non, on ne peut pas dormir. Non, j'ai une visite d'une heure.
On
a juste visité au Machon Amikdash. Ouais. Et à la fin, donc, on parle de la réalité du Beth Amikdash, on va le reconstruire. Et une des filles a une réaction comme ça, comme toi. C'est...
Demain.
Ouais, c'est mes petits-enfants, peut-être. Toi, tu dis même pas mes petits-enfants, peut-être. Maintenant, moi, je vais te dire. Demande-toi. Pense à Aloumim. OK ? Et pense à ces enfants-là avant la guerre. Ou pense à eux pendant la guerre. Et demande-toi quelle aurait été leur réaction si à ce moment-là, on leur avait dit « Non, mais tu sais, dans 10 ans, dans 30 ans, il y a une start-up nation en Israël. » L'État d'Israël devient une superpuissance économique, militaire, internationale, fait la paix entre des puissances, et les Juifs auront un pays et une armée forte. Ils vont te dire, c'est pas de mal à veille.
Papa, il disait pas comme ça. Il disait oui.
C'est... Tu sais comme moi que la majorité des Juifs, oui, dans les années 1900, ils vont pas te dire dans 50 ans, il y aura l'État d'Israël. C'est-à-dire, c'est une réalité. Donc, Bezrat Hashem, qu'est-ce que je te dis ? On est vachement plus près de l'avoir que de ne pas l'avoir. Oui ? Non, ben, on ne peut pas savoir. Mais je veux dire, si on apprend de l'histoire, on se rend compte quand même que tout ce qui touche au peuple juif et qui semble à un moment T complètement absurde, ben voilà, ça marche quand même. Donc bon. En tout cas, Venish Tachav.
Les pays arabes qui viennent faire des...
La... Mais bien sûr, mais bien sûr, qui aurait pensé ça, mais bien sûr, évidemment, évidemment.
Déjà, on ne pensait pas avec l'Égypte.
Non, c'est pas beau, c'est pas beau. L'histoire du CEDER à Dubaï, qui l'eût cru. Hein?
Oui, ça, c'est oui.
Faut le faire.
Mais écoute, donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit Venishtachave. Ishtachavaya, c'est, on a dit, c'est se prosterner. Il y en a qui font. Il y en a qui voilà. Mais non, mais ça c'est pour sortir. C'est pour comme ça ils arrivent à la mer morte, à la mer rouge, le septième jour. Venishtachave. Qu'est-ce que ça veut dire? Venishtachave. On va se prosterner. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait quand on se prosterne? C'est-à-dire on s'allonge complètement là-bas. Le mot leishtachavot a pour racine chet vav hey. Chava. Le mot Ishtachavaya, sa racine, c'est Chava. Et je vous rappelle que Chava a été nommée comme ça parce qu'elle était Em Kol Chai, la mère de toute vie. En d'autres termes, quand je vais au Beth Amikdash, au mont du temple, et que je me prosterne là-bas, je m'attache à la source de la vie. Et c'est ça qu'Abraham va faire. Et c'est ça, en fait, le Niba Velo Yadam Aniba. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. C'est pas seulement qu'il va revenir avec Yitzhak. Et là, on lui a dit d'amener Yitzhak et de l'amener vers la mort. En fait, il va recevoir la vie, Yitzhak, là-bas. C'est-à-dire, c'est ça qui va se passer là-bas. Alors, voyons comment ça va se passer. ויאמר אברהם אל נערה שולח בו עם החמו ואני ואין אדם נלכה את כובש הרבים נשובה לכם ויקח אברהם את הצה העולה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. Donc il a pris avec lui tout ce qu'il avait besoin et le couteau. Yachdav, c'est pas Beyachad. Beyachad, ça veut dire toi et moi, côte à côte, ensemble. Yachdav, ça veut dire qu'on ne fait plus qu'un. Qu'on ne fait plus qu'un. Yachdav, ça veut dire qu'on est un. Pas comme Beyachad, où ça veut dire qu'on est tous les deux, mais on est ensemble. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment à l'unisson. Vayomer Yitzhak, El Avram, Aviv, Vayomer. Avi, c'est la première fois que Yitzhak appelle son père papa. Il se reconnaît comme étant son fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Biologiquement, il le sait très bien que c'est son fils. Mais il se reconnaît comme étant son successeur. Et plus important encore, Vayomer ineni béni. C'est la première fois. Il a 37 ans. C'est la première fois qu'Abraham l'appelle mon fils.
Je ne voulais pas te poser la question, mais là tu reviens là-dessus.
Oui.
Pourquoi ce n'était pas évident que le fils succède au père ? Moi, ça me semble évident.
Tu parles de quoi ? Au niveau biologique ?
Oui.
Bien sûr. Mais le problème, il n'est pas là. Non, vous avez raison. Au-delà du fait qu'il y avait Ishmaël.
Ou peut-être Eliezer. Enfin, ça me semble bizarre.
Non.
L'élève ne succède et pas le fils. Ça me semble naturel, je vois pas.
Évidemment que c'est naturel. Non, t'as pas compris.
Alors peut-être qu'ils n'avaient pas la même conception, qu'il y en a un qui était Midat Rahamim, mais l'autre Midat. Mais quand même, c'était son fils. Je comprends pas.
La question, elle n'est pas au niveau légal. Elle n'est pas au niveau des biens.
Pourquoi là, justement, il se
retrouve. Attends, deux secondes.
J'aurais pas posé la question.
Non, mais très bien, elle est très bonne cette question. Elle est nécessaire. La question, elle n'est pas au niveau. Législatif et légal, de savoir est-ce que c'est bel et bien Yitzhak qui hérite, qui va chez le notaire et qui hérite.
Non.
Ça, c'est comme tu dis, c'est une évidence. C'était les lois de l'époque. Mais il y a une différence de léguer mes biens à mon successeur légitime d'après la loi et de le reconnaître comme étant mon successeur. C'est deux choses différentes. Le fait que Yitzhak est le successeur biologique légitime d'Abraham, c'est une chose. Mais là, Abraham accepte que malgré le fait que Yitzhak ne soit pas du tout dans le même chemin que lui, il comprend que c'est ça qui lui succède.
Et Ishmael, il était dans le même chemin que
lui.
Il avait Midat Rachamim, Ishmael.
Non, Abraham, il n'avait pas Midat Rachamim, il avait Midat Chesed.
Oui,
et oui, Ishmael était Midat Chesed, exactement.
Ah ouais ?
Oui, madame. Et je vous invite à voir jusqu'à aujourd'hui la culture arabe à l'intérieur. Je ne parle pas de leur façon de traiter les ennemis. Mais la façon dont ils se traitent entre eux, il y a là-bas un chesed énorme.
L'hospitalité, ça.
L'hospitalité, c'est quelque chose de très fort chez eux.
Même pas forcément des musulmans. Hein.
Non, je veux dire, après, s'ils voient les gens comme étant leurs ennemis, alors ils vont faire un problème. Mais à partir du moment où ce n'est pas des ennemis, et a fortiori quand c'est des gens de leur famille ou des musulmans, la notion de chesed est très forte. Très, très forte. C'est-à-dire ? Donc, oui, Ishmaël était quelque part plus sur la même longueur d'onde qu'Abraham. Aval Yitzhak, non. Yitzhak, c'est Machou Acher.
Mais je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut aussi un peu de Chesed et un peu de Din.
C'est exactement ça. C'est pour ça que Yitzhak reconnaît Abraham comme son père et Abraham reconnaît Yitzhak comme son fils. Ça veut dire que l'un qui est Din reconnaît qu'il y a besoin d'avoir le Chesed et le Chesed reconnaît qu'il a besoin d'avoir le Din.
Il a fallu attendre 37 ans.
Il a fallu attendre 37 ans pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, toute la paracha depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à aujourd'hui, c'est l'apprentissage d'Abraham de l'importance du Dieu. Exactement. C'est ça ? Voilà le bois, le feu pour faire, enfin, de quoi faire le feu. Où est l'agneau ? Où est le mouton ? Vayomer Abraham Elohim Yirelo Aseleola Beni. Tout le monde a compris de quoi il se passe, de quoi est-il question, et ils acceptent, ils y vont en mission encore une fois. Vayavou al hamakom asher amar lo Elohim vayiven sham Avraham et hamizbeach vayarokh et haitzim vayakod et Yitzhak beno vayasem oto al hamizbeach mimal haitzim. Il a créé le mizbeach, tout ça, et il attache Yitzhak. Nous parlons de akedat Yitzhak, de ligature de Isaac. La main. Personne ne lui a demandé de l'attacher.
Pour qu'il ne bouge pas. C'est volontaire. Il n'avait pas l'intention.
Nous dit la Midrash, celui qui a demandé à être attaché, c'est Yitzhak.
Mais oui.
Pourquoi ? Il a dit, papa, galoui veyadoua lefanecha. Tu sais très bien, chez Retsoni, la Tzot Retsono, que ma volonté, c'est de faire sa volonté. Donc j'ai envie d'être sacrifié, pas de problème. Aval, yodea ata veani. Mais on sait tous les deux que l'instinct de survie, il est chutzpan. Mmh. Et que lorsque je verrai le couteau, et j'aurai un réflexe, et peut-être qu'à cause de ça, tu me feras une petite entaille et je serai Baal Moum. Je serai un sacrifice impur, parce que pas entier. Abba, Okdeni yadai veraglai. Attache-moi les mains et les jambes. À Rosh Hashanah, on dit ve et akedat Yitzhak berachamim tiskor. C'est akedat, le fait que Yitzhak il a demandé d'être attaché, rappelle-toi de sa ribono shel olam. Ok? וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. איזה בת. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. הנה כמו זה. Enfin plutôt comme ça.
Encore une fois
הנני. Il dit oui, je sais très bien ce que je suis en train de faire. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה? Là, ça va très vite. On a Abraham qui veut faire le sacrifice, et on a le malach qui arrive, et dans le Midrash Tanhuma, il y a tout un dialogue qui se met en place, qui n'est pas marqué ici. Dans le Midrash Tanhuma, on nous dit qu'Abraham, donc il a voulu faire le sacrifice, et il y a un malach qui est venu, Vaishlach malach, Vayomer Abraham, Abraham, Vayomer Ineni. Et à ce moment-là, le dialogue commence. Alors que l'ange lui a dit, ne frappe pas l'enfant, le jeune, Abraham lui dit, mais qui es-tu? Il dit, bah, je suis un ange.
Dieu m'a dit.
Il dit, je suis un ange. Et alors, qui t'a envoyé? Il dit, bah, c'est le patron. Il dit, très bien. Bah, écoute-moi bien, mon ami ange. Quand Dieu m'a demandé de sacrifier Yitzhak, il est venu en personne. Oui. S'il veut me demander de ne pas le sacrifier, qu'il vienne en personne.
C'est pas mal, quand même.
Hein?
Elohim lui a demandé.
Nous.
C'est qui lui dit
non, c'est Malach.
Malach
Hachem. Oui, Malach.
C'est un Malach.
C'est une secrétaire.
Ouais.
Alors il lui dit, je ne parle pas avec les secrétaires. Bye bye. Et là, nous dit le texte que Vaishlach Malach Hachem Shenit Min Hashamaim. Il y a un deuxième ange qui arrive dans le couloir des Malachim. Il y a un deuxième. J'imagine le premier qui dit au deuxième, fais attention, en bas il est chaud. Et le deuxième ange arrive. Et il dit à Abraham, écoute, Abraham, Altishlach Yadecha Elanar. Abraham lui dit, mais t'es aussi t'es un ange. Il dit oui. Il dit, t'as vu ton copain là dans le couloir des anges? Allez, ça dégage. S'il veut, qu'il vienne en personne. Et à ce moment-là, nous dit la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il vient. Dieu, il vient. Et il lui dit comme ça. Vayomer bi nishbati neumashé. Je suis là, qu'est-ce que tu veux? Et là, Abraham continue et lui dit, écoute-moi bien Dieu. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et Dieu lui répond, parle. Il dit, n'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurai une descendance? Et Dieu lui dit, il te dira oui. N'est-ce pas que tu m'as promis que ma descendance, ça serait par Yitzhak? Il te dira oui. Et n'est-ce pas que tu m'as dit que par Yitzhak, j'aurai une grande descendance?
Oui.
Il te dira oui. Alors, n'est-ce pas que lorsque tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, j'avais toutes les raisons du monde d'argumenter, de dire non, mais enfin, écoute. Et Dieu lui dit oui. Et j'ai rien dit. Je me suis contrôlé. Alors si moi j'ai réussi à me contrôler et à faire ta volonté, tu me promets que lorsque les enfants de Yitzhak feront un peu n'importe quoi et que tu voudras leur faire quelque chose, toi aussi, tu te retiendras. Et tu ne leur feras rien. Et Dieu répond, Binishbati Neumashem. Je te promets. L'éternité d'Israël vient d'être scellée à ce moment-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il est content. Vayomer binishbatinu mashem ki an asher asita et hadavar hazeh velo sacha velo chasarta et bincha et yechidecha ki barecha varechecha ve'arbe arbe et zaracha kechorvei hashamayim ve'kachol asher al shfat hayam ve'irash darech et shar oyevav. Vous serez comme les étoiles du ciel et comme le sable de la terre. Et vous vaincrez vos ennemis. Top. Il est content, Abraham. Vous serez une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et qu'elle va chercher Mata Bekoli. Top. Nous, c'est top, là. Mais sauf que, on a sauté un tout petit passage. Eh oui. Eh oui, mais je sais.
C'est pour ça que je suis en train de chercher.
Je sais. Je sais, je sais. C'est au verset 12. Parce qu'au verset 12, lorsque Abraham est content, il a reçu la promesse de Dieu. Verset 13. Ouais, verset 13,
c'est là. trouvé le mouton pour le...
Alors attends, justement, au verset 13. Lorsque Abraham, il est très content, ça y est, Dieu lui a dit de ne pas sacrifier Yitzhak. Abraham lui dit... Enfin, Dieu lui dit, c'est ça. Il dit, bon, je t'ai promis que j'allais... Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie ma promesse? Du coup, ça, tu oublies ta promesse? Ben oui, on ne sait jamais, peut-être que j'ai oublié ma promesse. C'est Dieu qui parle. Il dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, regarde. Regarde, lève les yeux et regarde. C'est Dieu qui nous appelle. Et à ce moment-là, il lui dit, Vaïssa Avram et Teinav, Vayar Veine Aïl, Achar Nechas Basvar Bekarnav. Il voit le Aïl, le bélier. Et là, Dieu lui dit, tu vois le bélier? Tu vas dire aux enfants de Yitzhak, de dire à leurs enfants, que tous les ans, le jour où je juge le monde, qui prennent la corne du bélier et qui sonnent pour me rappeler ma promesse. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le shofar à Rosh Hashanah, ce n'est pas pour que nous on fasse tshuva.
C'est pour que Dieu se rappelle.
C'est pour que Dieu fasse tshuva et qu'il se rappelle de sa promesse. C'est énorme.
Bah, ça ne veut rien dire que tu fasses tshuva.
Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Parce qu'il ne va pas oublier.
Non, mais
après, Dieu. On peut dire que Dieu a oublié.
Dieu ne fait pas tshuva.
Alors, on n'a pas dit qu'il l'a oublié.
Il ne peut pas oublier.
Comment il peut oublier?
Donc, ça veut dire que tu as compris ce que ça veut dire.
C'est nous qui sommes en train de qu'il oublie, on peut quand même lui rappeler.
D'abord, je ne suis pas Dieu. D'abord, je ne suis pas Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi. J'espère. Je veux faire en sorte que Dieu n'oublie pas. Je ne veux pas oublier que Dieu n'a pas oublié.
Ça arrive que Dieu oublie.
Non, la preuve, t'es là.
Ah,
non.
Mais il y en a beaucoup qui ont.
Mais enfin, d'abord, l'immortalité n'est pas encore atteinte. Donc tu vas me dire, il y a plus de juifs qui sont morts dans l'histoire que de juifs vivants actuellement. Bon, mais il y a un truc qui s'appelle la vieillesse, il y a un truc qui s'appelle les maladies. Je sais très bien de quoi tu me parles. Mais avant d'arriver à la Shoah, je t'explique qu'il y a des juifs qui sont morts dans toutes les générations, même quand il n'y a pas eu la Shoah. La promesse que Dieu a faite ici de garder le Ham Israël, ce n'est pas au niveau des individus. C'est au niveau du peuple juif. Donc évidemment que la Shoah, les pogroms, tout ça, c'est terrible. Mais malgré cette terreur, on est toujours là. Et ça n'enlève en rien le drame de la Shoah, et ni le drame des autres pogroms, et ni le drame, j'allais même te dire, au niveau individuel, des gens qui ont été tués il y a 2 semaines dans les attentats. Non, parce que on va faire Yom HaShoah cette année. On ne va pas faire l'année prochaine Yom Bnei Brak. Pourtant, pour la famille des 5 disparus et des 11 des attentats, pour eux, c'est comme Yom HaShoah. Maintenant, c'est des individus et c'est terrible. Mais au niveau du macro, pas du macro, hein, du macro, au niveau de la grandeur, Am Israël est toujours là. Alors que statistiquement, on n'aurait pas dû être là. Tous les autres peuples qui ont été en exil n'ont pas survécu. Et nous, on est là. Donc il y a, oui, quelque part, une promesse qui a été mise en place. C'est-à-dire וישוב אברהם אל נהריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. Il est revenu à באר שבע. Il est content. יצחק est là. Qui n'est pas là?
Sarah.
Sarah. Où elle est? Non, pas encore. Tu vas le savoir après, mais je veux dire, pendant toute la période où il était à Hebron. Abraham? Hein?
Elle est morte de chagrin.
Oui, mais ça, deux secondes. Elle est morte, 2 secondes. Pour l'instant, elle n'est pas morte. Mais 2 secondes.
Ouais,
Abraham a.
Oui, il est retourné à Beersheba, pas à Hebron.
Abraham a 3 résidences. Je ne sais pas quel impôt il a payé, mais il a une résidence première, une secondaire et une tertiaire. Il a une résidence à Hebron, une résidence à Elon Moré, à côté de Shrem, et une résidence à Beersheba. C'est ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas si vous avez. Hein? C'est-à-dire qu'il se déplace, Nachon.
C'est trop beau.
Nachon. Mais qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre, qu'est-ce que c'est le troisième? Mazé Shrem, Mazé Hebron, Mazé Be'er Sheva.
Et pas Yerushalayim.
Shrem, c'est là où.
Agave, pourquoi pas Yerushalayim?
Il y a pas de l'endroit de.
Parce qu'il n'a pas été accueilli à Jérusalem. Malgitzedek, il est sorti à sa rencontre à l'extérieur de la ville, il ne l'a pas laissé rentrer. Donc il n'est pas encore à Jérusalem. Aval Shrem, Zemakom, à Parnassa. Shrem, c'est le centre de l'abondance commerciale, parce que c'est le centre de l'abondance du pays. Hevron, c'est le centre spirituel du pays. On dira le Zohar que c'est l'entrée du Gan Eden. Et Be'er Sheva, c'est quoi ?
Les vacances.
Les vacances. C'est les vacances.
C'est les pluies, c'est l'eau.
Be'er Sheva, c'est le centre de l'identité. C'est à Be'er Sheva qu'on a appris qui on était. Abraham a dévoilé son identité à Be'er Sheva. Donc, si vous voulez, Be'er Sheva, c'est l'essence de l'identité juive. Hevron, l'essence de la spiritualité du lien avec Dieu. Et Shrem, l'essence de la Shefa, du dévoilement dans ce monde. Donc là, il va à Be'er Sheva, il est content. Et là, on aurait pu s'arrêter là-dessus. La paracha aurait pu se terminer ici. Et pourtant, on nous donne 4 versets, 5 versets, qui ont l'air aucun rapport. On dit, Vayachare Adevarim Aele. Donc on est après l'histoire de la Hakeda. Vayugad l'Avraham, les morts. Avraham a reçu un mail. De qui ? De son frère. On a oublié, il a un frère. Avec toutes les péripéties de Avraham depuis la paracha de Lech Lecha et Vaera, on a oublié, mais il a une famille qui est restée en Roule. À Haran. Comment il s'appelle son frère ? Nachor. Bien sûr. Donc on dit, Vayugad l'Avraham les morts, iné Yalda Milka Gamhi, Banim le Nachor Achicha. Ton frère aussi, il a des descendants. En d'autres termes, tu n'es pas le seul à proposer une succession à la famille hébraïque. Il y a Nachor aussi. Et puis attendez, regardez. Combien d'enfants il a ? Essayez de compter avec moi. Et Utz Bechoro, Vet Buz Achiv, Vet Kemuel, Avi Aram, Vet Kesed, Vet Razo, Vet Pildash, Vet Idlaf, Vet Betuel. Là, je suis à 8. Ou Betuel, il y a là d'être Rivka. Betuel, il a une fille qui s'appelle Rivka. Shmona Ele, Yalda Milka, le Nachor Achi Avraham. Ou Pilagsho, ou Shma Reuma, Vatelet Gami et Tevach, Vet Gaham, Vet Tachash, Vet Maacha. Combien d'enfants ?
12.
8 de la femme légitime et 4 de la concubine. Intéressant, c'est un chiffre qui est quand même assez parlant.
Mais Rivka, elle a un frère. Pourquoi on ne parle pas de...
Alors voilà, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça maintenant.
Parce qu'il va se marier avec elle.
Alors, Chazal va nous dire, c'est parce que de là, tu vas apprendre que, voilà, c'est pour annoncer les futurs mariages, le futur mariage entre Yitzhak et Rivka. Mais pourquoi on nous raconte ça maintenant ? On nous raconte ça maintenant parce que maintenant, Abraham... Qui ? Abraham veut se marier ?
Non, il veut que c'est Yitzhak.
Son fils se marie. Ça veut dire que maintenant, Abraham a compris que Yitzhak est son successeur et que donc, maintenant, il doit, lui, se construire sa vie. Et la question est de savoir avec qui il va devoir construire sa vie. Est-ce qu'il construit sa vie avec Echad mi Po ou alors il faut aller chercher dans la famille ? Parce que tu aurais pu penser que maintenant, Yitzhak va se marier avec une autochtone. On veut hériter de la terre d'Israël. Quoi mieux de se marier ?
Si, c'est pas mal. Il s'est marié dans la famille.
Oui, mais Abraham, il n'avait pas encore cette mission de la terre d'Israël quand il s'est marié avec Sarah. Donc, tu vois, la question ne se posait pas. Sarah et lui, ils habitaient à côté. Là, ils habitent quand même à 1000 km d'écart l'un de l'autre. C'est pas rien. La situation a un peu changé. Et après tout ce qu'on a dit sur Yitzhak, qui doit hériter de la terre d'Israël, pourquoi ne pas se marier avec une princesse cananéenne ?
Que
quoi ?
Non, parce qu'on connaît l'histoire.
Ça ah, tiens, tu connais l'histoire.
On connaît l'histoire.
Pourquoi c'est évident ? Il y a une fille bien en Eretz Canaan.
Parce que après, l'identité, ça peut-être.
Parce que l'identité, pour l'instant, elle n'est pas encore construite.
Oui,
donc comme elle n'est pas encore construite, elle doit rester à l'intérieur de la famille.
Parce qu'après Yaakov, c'est la même histoire.
Et après Yaakov, c'est plus la même histoire. C'est-à-dire Yaakov, oui.
Il s'est pas marié avec...
Yaakov, il s'est marié avec dans la famille aussi. Oui, mais après, non, terminé. Pourquoi ? Parce que l'identité d'Israël, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on a les trois, alors c'est bon. Mais on nous parle ici de Yitzhak, de Rivka, Sicha, pour dire, voilà, maintenant que c'est à Yitzhak de commencer à gérer sa vie, eh bien, sache qu'il doit se marier dans sa famille. Pour continuer la deuxième étape de l'identité d'Israël. C'est-à-dire, j'ai entendu une fois de Shlomo Balzan, qui avait dit sur ces versets, c'est Hamoud, il avait dit, tu viens de lire le parashat Lech Lecha et Vayera, hein, combien de péripéties il a vécu Abraham ? Combien ? À n'en plus finir. Et tu as l'impression qu'une fois qu'il a vécu tout ça, il reçoit un coup de téléphone de son frère qui habite en Roule et qui lui dit ouais, sinon j'ai eu un fils, machin. Il dit c'est pas trop ce qui se passe entre les juifs d'Eretz Israël et les juifs de Roule. Les gens qui ont fait leur alia, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font dans la vie et tu as l'impression qu'ils ont des journées de minimum 48 heures et qu'ils ont vécu en 10 ans ce que les gens en France ils vivent en 3 vies. Effectivement. Ici, le temps, il passe pas pareil. Et on fait des choses que, voilà, on s'imaginerait même pas pouvoir faire là-bas. Et on a vraiment des fois l'impression d'entendre la discussion téléphonique entre un frère et son frère, l'un en Israël et l'autre en Roule. Après, celui qui a vécu tout ce qu'il a vécu dans les deux parachiotes, l'autre, il lui dit, bah, sinon, toi, comment ça va? Oh, bah, moi, écoute, j'ai eu un fils, sinon, ça va bien. Et quoi de neuf chez toi?
Parce que vous avez fait la liaison avant le...
Oui, non.
Et, j'ai... Là, et là, il y a de nouveau Acharé.
Non, il y a une différence entre Achar et Acharé. Achar, nous dit la Gemara, Achar Samour. Ça, c'est juste après l'événement qu'on vient de lire. Acharé, c'est longtemps après.
Oui, je voulais savoir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé son fils aller chercher Rivka lui-même et qu'il a envoyé son serviteur?
C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ce sera pour la prochaine fois. Hazak.